J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Il y a un premier point, c'est une affirmation et elle est catégorique. David le confesse. Il dit qu'il a eu des frayeurs, qu'il a été envahi par des angoisses, qu'il a eu des peurs. Lui, David, qui était capable de détruire une armée à lui tout seul, amen, de vaincre des puissances. Alors, vous regarderez un petit peu, vous chercherez le nombre d'allusions que David fait à l'angoisse et à la crainte. Et vous en serez convaincus. Oui, David n'a pas raconté n'importe quoi. Il a dit « j'ai eu peur, j'étais dans la crainte ». Mais si on va plus loin, en même temps, il a appris à pouvoir dire qu'il ne craint aucun mal. Amen. Donc il y a des leçons à apprendre de la vie de David. Ses peurs, ses angoisses ont plusieurs causes, je dirais plusieurs origines en même temps. Et cela, quelque part, il nous ressemble. Oui. Car selon les estimations des psychologues, nous dépensons 50% de nos énergies à combattre des appréhensions, des peurs, des angoisses. 50% de notre énergie. Il est important de préciser que le Seigneur, lui, est capable de comprendre ce genre de difficultés que nous pouvons rencontrer. Pourquoi ? Eh oui, il a connu l'angoisse. Il a éprouvé de la frayeur, et ceci avant d'aller vers le summum, c'est-à-dire vers la croix. Mais lui aussi en a triomphé. Il a refusé de se laisser arrêter par ces formes d'opposition, d'oppression, parce que c'est cela. Ésaïe dira ceci, Ésaïe 53, verset 8, est-ce que c'est la bonne ? Tu l'as ? Oui, voilà. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ? Qui a cru ? Pourtant, c'est la réalité. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. C'est de Jésus dont il est question. Marc dira ceci, Marc chapitre 14, verset 33. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Amen. Il est question de Jésus, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant. Celui qui appelle des choses qui ne sont point, elles deviennent une réalité. Oui. Il existe donc un droit à la peur. Et là, c'est pour vous déculpabiliser. Parce qu'elle n'est pas toujours, je dirais, conséquence du péché. Où il faut s'en inquiéter quand justement elle démontre quelque chose de terrible chez nous, c'est l'incrédulité. Là oui, on a à s'inquiéter. Hein. Il va leur dire ceci, dans Matthieu chapitre 8, verset 26, c'est Jésus. Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça la mer, le vent et la mer, pardon, et il eut un grand calme. Le contexte de ce temps-là, est semblable à celui de notre époque, parce qu'on dit oui, mais ça c'était pour autrefois. Je prends l'épisode de la confrontation de David avec ce géant, Goliath. Il faisait près de 3 mètres. Lui au basket, il aurait été champion. Hein. Et oui, parce que c'était facile pour lui. Hein. 1 Samuel chapitre 17, verset 8. Le Philistin s'arrêta, il s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en bataille, et il leur cria : Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin ? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. Et au verset 11, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Vous voyez, des paroles ont suffi pour émousser leur foi, pour les amener dans une faiblesse extrême, à tel point qu'ils sont paralysés. Ils sont paralysés. Alors la situation d'Israël, vaincue par la crainte, suscitée justement par des menaces est équivalente, à celle du monde ou dans le monde dans lequel nous vivons, un monde qui est soumis à la puissance des ténèbres. Combien disent « je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas ». Paul l'a dit, bien sûr, mais combien aujourd'hui disent « mais c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à me retenir, je ne peux pas l'expliquer ». J'ai pété un câble, j'ai perdu la raison, je ne sais pas. Et c'est pourtant la réalité. Ce monde dans lequel nous vivons, il est soumis à la puissance du malin. La peur règne, elle règne sous toutes ses formes. Peur de la mort, de l'avenir, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être à la hauteur. Les chrétiens rétrogrades également sont aussi dans le même cas. Eh oui, l'esprit s'étant retiré de Saül, l'exemple est là bien sûr, hein. Le roi n'est plus apte à faire face à la menace. Également, parmi ceux qui l'entourent, tous sont tenus en respect sous la menace d'un ennemi qui semble avoir le dessus. Même pas la peine de combattre, vous avez perdu. Ne vous avancez pas, c'est pas la peine. Eh oui. Et l'être humain est soumis à la nécessité également, c'est paradoxal, de réussir. Aujourd'hui, il faut être performant. C'est le défi du siècle dans lequel nous vivons, hein. Alors, il se sent souvent contraint d'être performant à tout prix. C'est le monde dans lequel nous vivons. Il faut être performant, hein. On n'a pas le choix. Et comme on ne veut pas être en reste par rapport aux autres, parce qu'on ne veut pas être le dernier, eh bien, on adopte parfois une conduite à risque. Eh oui. On a peur de ne pas atteindre les objectifs qui nous sont fixés. C'est la raison pour laquelle, eh bien, de plus en plus, il y a l'usage de produits dopants, des drogues qui se répandent dans le domaine du travail. Il faut être reconnu. Tu dois être quelqu'un. Eh oui, tu dois être quelqu'un. Tu ne dois pas montrer ta faiblesse. Même si tu trembles, tu ne dois pas le montrer, personne ne doit le voir. Tu ne dois pas montrer ta fragilité. Parce que ça, c'est des effets destructeurs. Hein. Le stress, la pression fait que, excusez-moi, mais à un moment donné, on craque. Ils appellent ça le burn-out, c'est ça ? Eh oui. Alors la question qui se pose dans cet enseignement tourne autour de ces éléments, bien sûr. Et je dirais que le chrétien également subissant en plus la pression spirituelle du combat qu'il doit livrer contre le péché, contre la tentation, parce que le chrétien, il a encore ça en plus. Le monde peut se le permettre, le chrétien ne le peut pas. Il n'en a pas le droit vis-à-vis de son Seigneur. Il est question de salut. On l'a acquis, il ne faut pas le perdre. Amen. Alors, il faut bien admettre qu'il faut faire avec ces problèmes, la question étant de savoir comment. Comment en sortir vainqueur ? Comment ne pas succomber ? Comment ne pas tout laisser comme cela et envoyer balader toute chose ? Non. Alors, la réponse qui est proposée ici tend à vouloir proposer quelque chose de particulier que nous connaissons, de laquelle nous devons vivre. Cette chose, c'est la foi. Amen. La prière. Alléluia. Et je dirais que nombreux sont qui sont soumis à la pression de la peur, de la crainte. Et comme je dirais le sujet va le montrer également, celle de la saturation. La pression est terrible. J'ai vécu dans le monde du travail. Donc je peux vous dire que c'est vrai. On arrive à un moment donné, on est comme saturé. C'est difficile. Le Seigneur vous comprend, il vous connaît. Alors si David a affirmé sa victoire sur ses frayeurs, c'est parce que justement il a appris à en triompher. Amen. Il n'est pas interdit, ce n'est pas un péché d'avoir peur. Cessez de vous culpabiliser et d'écouter celui qui vous culpabilise. Donc David en a triomphé, il est allé à l'école de Dieu et il nous faut aller à l'école de Dieu. Amen. De plus, ce ne sont pas des slogans qui vont nous sortir d'affaires quand on en a besoin. Non, non, les slogans, allez, demain ça ira mieux. Prends du repos. Et puis on revient et c'est pareil. La pression est toujours là. Alors on a besoin d'autre chose. Amen. On a besoin d'aller, de retourner à l'école de Dieu. Si on revient un petit peu au propos de Goliath, ses propos, ses paroles étaient... Leur but était de provoquer le doute, la remise en question de la foi. C'était de déstabiliser, d'amener le cœur à avoir peur, à être dans l'inquiétude. Et il y a son pourquoi. Pourquoi vous mettez-vous en ordre de marche là? Pourquoi? Bien, il voulait créer ce sentiment d'une action inutile. Il voulait les déstabiliser. Ne suis-je pas le Philistin, c'est-à-dire la référence? Il dit, ne suis-je pas un Philistin? Non, je ne suis-je pas le Philistin, celui dont vous savez qui il est, bien sûr. Hein, c'était pour tenter de donner l'impression qu'il était vraiment plus fort qu'il ne l'était déjà. Peut-être qu'il était fort, bien sûr qu'il était fort, hein, puisqu'on en avait peur. Mais plus fort qu'il n'était, c'est-à-dire invincible. Un seul est invincible, c'est le Seigneur. Également, n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Oui, ça visait à semer l'impression d'avoir été trompé. Saül, vous l'écoutez, mais ce n'est pas la peine, il vous trompe. Il ne vous dit pas la vérité. Alors nous savons que Dieu nous dira toujours la vérité sur nous-mêmes. Quand nous sommes en lenteur, il saura nous féliciter, nous récompenser. Il saura rassurer notre âme. Et quand nous sommes à côté, justement, il saura aussi nous parler. Il y a des dons spirituels ce matin. Amen. Le Seigneur nous parle et on a besoin d'être attentif. Amen. Alors tous ces propos étaient imprégnés de mensonges, d'orgueil. L'adversaire, par ses insinuations, hein, c'est son rôle, c'est ce qu'il sait faire, bien sûr. Hein. Eh bien, c'est pour amener la forme de pensée ou de parole, justement pour nous déstabiliser, nous faire peur. Faut également nous amener à quelque part à franchir le pas. Hein, oui, la tentation est là. Alors on a vite fait de franchir le pas quand justement on ne sait plus. Hein. Alors lui, il est à l'affût pour voir à quel endroit il va y avoir la faille. Il va craquer à quel endroit. Eh oui, eh oui. C'est dans le rang, dans le but de créer justement dans les rangs des croyants, ainsi que dans leur cœur, une faille, une brèche. Eh oui. L'Église ne lui plaît pas. Vous ne saviez pas ça? Elle plaît au Seigneur parce qu'elle est dans ses plans et dans sa volonté. Mais elle ne plaît pas à l'adversaire, elle ne plaît pas à l'ennemi. Et son rôle, c'est de la détruire, de la salir, de la désunir, pour ne pas dire la diviser, bien sûr. Alors, le deuxième point, c'est l'angoisse et la peur qui est due à la présence de menaces. David a fui car Saül, oui, c'est pas trop l'adversaire, c'est un Israélite. Saül menaçait sa vie. Alors, comme le montre le contexte qui a donné naissance au psaume 34 et à celui de 1 Samuel 21, il en voulait à sa vie. Il était roi et il savait que David également avait reçu des promesses de la part de Dieu. Donc, il voulait s'en débarrasser. Lui s'est enfui par peur, bien sûr, et la solution qu'il va adopter va lui causer encore plus de peur. Comme quoi, quand on oublie de se réfugier au bon endroit, quand on oublie d'aller vers la bonne personne, eh bien, il y a toujours des conséquences dramatiques. 1 Samuel 21, verset 10. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath, et au verset 12, David prit à cœur ses paroles. C'est-à-dire qu'il a eu une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Alors, pensons à tout ce qui peut aussi menacer notre existence. Eh oui. Eh oui. On peut être angoissé, par exemple, lorsqu'on est atteint d'un mal incurable, comme ce fut le cas du roi Ézéchias, de roi chapitre 20, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Alors, de telles perspectives sont propres à créer de la peur chez nous. L'inquiétude, bien sûr. L'emprise de la peur est sur la société qui cherche à l'évacuer ou, excusez-moi pour le terme, à l'exorciser hein, par tous les moyens. Soit en se rassurant à tort, parce que la mort, elle prend qui elle veut. D'ailleurs, nous naissons pour mourir un jour, comme ça. Soit en la défiant par de nouvelles traditions comme celle d'Halloween, Oui, on fait la fête aux sorciers, aux sorcières. On embellit la mort, on cherche comme cela. Alors il y a entre autres peurs, bien sûr, la peur écologique. Il y a la peur sanitaire. Il y a l'insécurité et la peur de la guerre. Oh ! Et oui, en ce moment, ça monte, hein ? Alors la peur, c'est une souffrance qui nécessite justement une guérison, une libération, un affranchissement. Certaines maladies sont des phobies, ce qui veut dire des peurs, j'aurai des définitions, et les causes en sont multiples, oui. Alors, il est important de ne pas refouler nos peurs. N'y pense pas, c'est faux. Vous arrivez à ne pas y penser ? C'est impossible. Mais au contraire, il faut les identifier. Qu'est-ce qui m'amène à avoir peur ? Pourquoi est-ce que j'en suis là ? Pourquoi est-ce que je tremble ? Il faut les identifier, les admettre, au lieu de les nier avec parfois des arguments qu'on appelle le pseudo-spirituel, basés sur une fausse conception de la vie chrétienne. Un chrétien n'a pas peur. On est en train d'en parler. Eh oui, c'est faux. Alors, il faut arriver à reconnaître que certaines souffrances ont une connotation particulière et sont considérées comme étant des sujets tabous. Eh oui. Eh bien, il faut briser quelque part le carcan. Hein ? Il faut briser le silence. Il faut arriver à en parler. Que font les psys ? Mais il faut venir devant le Seigneur et en parler. Il faut venir se réfugier dans la chambre haute et parler avec le Seigneur. Peut-être en parler avec un autre. Quelqu'un qui est responsable, qui est capable de vous comprendre. Quelqu'un qui, justement, a fait des études dans ce domaine-là. Pourquoi ne pas en parler ? Il faut. Parce que le fait d'en parler, déjà, on évacue. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit « Ah, il suffisait que je vous en parle, c'est, pasteur, parce que, ça y est, je suis en train de voir la solution. » Vous voyez ? Quelquefois, on n'ose pas, on ne veut pas en parler. Non, non. Alors, il est important de ne pas se laisser également culpabiliser en s'accusant trop vite d'être un mauvais chrétien, ou bien laisser les autres l'insinuer. Toi, tu es chrétien ? Oui. Mon nom est inscrit dans le livre de vie qui est dans les cieux. Oui, j'aime le Seigneur. Oui, je suis enfant de Dieu. Même si tu dis que je ne suis pas à ta hauteur, bon, écoute, la Bible dit bien que celui qui est debout doit, qui croit être debout doit prendre garde hein, aussi. Hein. Bon, mais voyez un petit peu, laissez les autres insinuer que nous ne sommes pas à la hauteur. Alors la chose est possible et envisageable, mais il arrive qu'elle ne soit pas l'explication recevable. Car je dirais le propre du mauvais chrétien, c'est qu'à ses yeux justement, il ne s'accuse pas de la sorte. Au contraire, pour lui, il est un bon chrétien. Je suis beau. La preuve, c'est moi qui le dis. Vous comprenez ce que je veux dire ? Hein ? Eh oui, eh oui. Alors ça, ce n'est pas le critère, bien sûr. Hein. Alors pour certains, c'est comme si la possibilité d'avoir peur et de craindre était proscrite. On ne doit pas avoir peur. Alors que la réalité, je dirais que l'éventualité de craindre, existe. Mais alors que faut-il faire ? Eh bien, il faut apprendre à gérer nos peurs et nos craintes. Pour justement les vaincre, pour ne pas être assujetti à la peur et à la crainte. Il faut justement les discerner. Il faut y comprendre pourquoi on en est là. Pourquoi est-ce que je vis telle situation ? Pourquoi est-ce que je tremble, je redoute le lendemain ? Il y en a qui me le disent. Pas des chrétiens, mais des personnes qui me disent « Je m'endors avec mon problème, je me lève avec mon problème, j'ai plus envie de vivre parce que je sais que demain, ce sera pareil. » C'est là qu'on présente le Seigneur. La solution, elle est là. Jésus va faire de toi une personne nouvelle. Mais pour nous qui sommes justement régénérés et qui sommes nés de nouveau, nous avons la possibilité de vivre à chaque jour suffit sa peine. Demain aura soin de lui-même. Appliquons la parole de Dieu à notre vie. Amen. Alors nous pouvons rencontrer certaines peurs. Il y a la peur due à l'incertitude. J'ai noté quelques-unes. Hein. La peur due à l'incertitude de l'avenir. La peur liée aux dangers qui nous environnent, la peur liée aux inquiétudes de la vie, matérielle, affective, relation avec la santé, la souffrance et la maladie, la peur de manquer, la peur des autres, la peur du regard des autres, la peur de soi. Quelquefois, on a peur de soi parce qu'on sait qu'on va être capable de faire des choses terribles. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de ne pas ou de ne plus être aimé, la peur de ne pas être apprécié, la peur de la mort. Une fois, une jeune fille qui me l'a dit, elle m'a dit, Bernard, chaque fois que tu parles de peur, de la mort, j'ai peur. Je redoute. Mais tu sais ce qu'il y a après la mort pour nous ? C'est un temps de repos. Si le Seigneur nous prend jeune, c'est parce que nous avons accompli ce qu'il avait demandé que nous accomplissions. Et on a tout fait dans les temps. Maintenant, il nous prend avec lui. On se repose. Mais ensuite, on va retrouver tous ceux qui sont morts avant nous, ceux qui seront morts après nous, et on va vivre ensemble. Un temps de bonheur et de paix, de félicité. Amen. La peur de Dieu. Dommage, hein ? La peur venant de notre propre caractère, de notre nature, ça oui, il faut en avoir peur. Mais il faut que ça change. Il faut que ça évolue. La peur de la chute spirituelle, alléluia, ça il faut en avoir peur. Mais je dirais qu'il faut plutôt en avoir crainte, c'est-à-dire avoir du respect vis-à-vis des choses de Dieu. Il faut justement ne plus en avoir peur. La peur d'avoir péché contre le Saint-Esprit, d'être impardonnable, alléluia, tiens-toi à la brèche. Fais-toi petit. Demande au Seigneur son secours en permanence et tu ne pécheras pas contre le Saint-Esprit. Lis la parole de Dieu, nourris-toi de la parole de Dieu et une relation avec le Seigneur. Et tu verras que ce péché-là, tu ne le feras pas, hein, parce que tu vas être vraiment dans un saint respect des choses de Dieu. Amen. Alors ces peurs, ainsi que d'autres, elles sont à prendre, je dirais, en considération afin d'apprendre justement à en triompher. Parce que le nier n'est ni vrai ni crédible. On ne peut pas. On ne peut pas. Quand c'est en nous, c'est en nous. Quand la peur nous tient, elle nous tient. Un enseignement qui prétendrait affirmer qu'une personne qui a la foi n'est plus jamais en situation de craindre, c'est du domaine de l'imaginaire. C'est un rêve. La réalité, elle est que ça peut nous arriver. Ça peut nous tomber dessus. On peut être justement pris dans une situation qu'on n'imaginait pas. Et là, ce n'est plus de l'imaginaire, c'est réel. Comment je vais m'en sortir ? David disait, je lève les regards vers les montagnes. Lève les yeux ! Aperçois le Seigneur, il est là. Il attend qu'une chose, c'est que tu l'appelles, que tu l'invites à venir et il viendra. Amen. Alors, céder à la peur peut créer une série de réactions en chaîne souvent imprévisibles. Le raisonnement de David, il est atteint et aveuglé par la crainte qui l'envahit. Il a perdu toute sa lucidité, son bon sens, même est affecté au point justement de faire de lui et de lui faire perdre toute maîtrise de lui-même. 1 Samuel 27, verset 1er, David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Philistins. Vous croyez qu'ils marchaient bras dessus, bras dessous ? Pas du tout. Afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël, ainsi j'échapperai à sa mère. Alors se réfugier dans le monde que les Philistins représentent, pour nous je parle, c'est pas une bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution. Pas plus que d'aller chez le roi de Gath, comme David, justement, l'a fait dans le premier texte que nous avons cité tout à l'heure. N'oublions pas que Goliath était originaire de Gath. Vous vous rendez compte ? Ben oui, mais des fois, on est capable de faire des choses semblables hein, quand on a perdu toute la raison complètement. Hein. Alors, ce genre de retournement de situation n'est pas justement à l'honneur de David. Vous voyez, des fois, on élève des gens, on dit « Ah, celui qu'on doit adorer et vénérer, c'est le Seigneur ». David n'était qu'un homme comme nous. Hein. Alors, ça traduit toute l'incompréhension dont l'homme est capable, bien sûr, quand il est sous l'empreinte de la peur, une peur non maîtrisée. Il n'est plus logique, parce qu'il est conduit par une autre logique, la logique de la peur. Elle n'est pas rationnelle. Et pour fuir sa peur, David s'est mis dans une situation dans laquelle il a eu encore davantage peur. Vous vous rendez compte ? L'engrenage est terrible, hein, la spirale hein, nous fait descendre de plus en plus bas. Hein. Alors il est enfermé dans un cercle vicieux parce que la peur justement engendre la peur et le devient justement un engrenage. 1 Samuel 21, verset 12, David prit à cœur ses paroles. il eut une grande crainte d'Achis, roi de Gath. Alors, pour échapper au nouveau danger qu'il a lui-même créé, parce que c'est cela, il se l'est créé, et c'est lui-même qui s'est mis là-dedans, David va faire quelque chose qui nous semble impensable. Un roi, c'est sérieux. Un roi, quand même, il a un rang, hein. Il ne doit pas montrer certains aspects de lui, non, non. Qu'est-ce qu'il va faire, David ? Il va faire le fou. Vous vous rendez compte ? 1 Samuel 21, verset 13. Il se montra comme fou à leurs yeux. Il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes. Il laissait couler sa salive sur sa barbe. Ah ! Achis dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous ? Est-ce que je manque de fou ?» Il est conscient qu'il y en a autour de lui, hein. Pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances, faut-il qu'il entre dans ma maison? Moi, je le veux pas, hein. Vous comprenez? Eh oui, eh oui. Mais c'était la solution que David avait trouvée. C'est pas valorisant, vous croyez pas? Eh oui. Alors, le remède pour David a consisté à quitter une telle situation. Il y avait que ça. Il y a que ça de possible. Il fallait que les autres le renvoient. C'est ce qu'ils ont fait. Reste pas avec nous, s'il te plaît, par pitié, va-t'en. C'est un peu ça, quelque part. Hein. Donc, il va se réfugier ailleurs. Il va se réfugier dans la caverne d'Adullam. 1 Samuel 22, vous regarderez ça. Alors, ceci nous enseigne, justement, et c'est là que je veux en venir, que le remède à l'angoisse consiste à se réfugier dans la personne de Jésus. C'est lui le véritable rocher. Il représente et annonce l'amour de Dieu qui est comme un rocher qui bannit la crainte. Amen. Eh oui, c'est cela. Hein. Je prends ce que dit Jean, dans la première lettre de Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Je vais le prendre dans une deuxième version, je ne te l'ai pas donnée. La version parole vivante. Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parfait chasse toute trace de peur. En effet, la crainte suppose l'idée d'une culpabilité et la perspective d'un châtiment. Celui qui vit dans la peur du jugement montre par là que l'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Le critère, il est là. Le plus important, c'est que Dieu nous a aimés le premier. Avant que je le connaisse, il m'aimait. Lui me connaissait. Amen. Il nous aime le premier. L'amour de Dieu est ici présenté comme étant le seul remède à la peur et à la crainte. Amen. Troisième point, il y en a cinq. Hein. On arrive à la moitié. C'est l'angoisse et la peur due à la culpabilité. Oui, Emmanuel. Hop. Alors, nous savons, tout péché commis engendre une culpabilité réelle. Ça, c'est pas de... C'est pas de l'illusion, c'est de la vérité. Hein. J'ai commis le péché. Je dois en assumer les conséquences. Regardez un petit peu. Après qu'Uza soit mort pour avoir mis la main sur l'arche, alors que celle-ci, normalement, devait être justement portée à bras d'homme, elle était portée par un char avec des bœufs, 2 Samuel 6,9 nous dit que David eut peur. Il eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» 1 Chronique, chapitre 15, verset 13. « L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous n'avons pas cherché selon la loi. » Il y a eu le dénombre bas, à un moment donné, 2 Samuel 24, verset 14. Il n'avait pas le droit de le faire comme cela. Il y avait une réforme. Et en plus, il n'avait pas le droit de le faire. Ce n'était pas à lui à le faire. David, Dieu ne lui avait pas demandé. Et David va répondre à Gath, « Je suis dans une grande angoisse. Tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais pas entre les mains des hommes, que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Amen. C'est auprès de Dieu qu'il nous faut aller. Excusez-moi pour le terme, mais tombons entre les mains de Dieu une fois pour toutes. Amen. Après le péché commis avec Bathsheba également, l'assassinat également commandité contre son mari, psaume 38, verset 18, il dit « Je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. » Ça, c'est vrai. David a commis le péché, le crime. Eh oui, chose de grave. Maintenant, attention aux fausses culpabilités. Faire attention. Parce que le son est le résultat d'une conscience qui fonctionne mal, qui accuse à tort. Et elles n'ont rien à voir avec des situations citées précédemment. Non, non. Elles peuvent aussi venir des autres. On entend. Des jugements à son égard. On est accusé. Et ça, ça peut créer un état intérieur tel que l'on se sent coupable alors que les autres n'ont pas les informations. Ils n'ont rien. Ils ne savent pas pourquoi je me suis comporté comme cela. Voilà. Mais ça ne sait pas ce qui s'est passé. Vous ne savez pas culpabiliser. Si vous avez fait mal, si vous avez péché, vous le savez. Celui qui a menti, il sait qu'il a menti. Celui qui a triché, il sait qu'il a triché. Hein. Alors, le remède à tout cela, c'est quoi? Eh bien, c'est le pardon. Il n'y a qu'un véritable pardon qui puisse ôter la crainte et l'angoisse provenant justement d'une vraie culpabilité. Pardonne-moi, Seigneur. Mon frère, pardonne-moi, je veux réparer. Je t'ai fait du mal, il faut que je répare. Vous voyez, également, il faut confesser. La confession est nécessaire, car ce qui n'est pas reconnu ni avoué, eh bien, ça va peser lourdement sur la conscience. Psaume 32, verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Alléluia. On est beaucoup plus léger. Hein? Quand on a avoué qu'on s'est repenti, on a l'impression de revivre. Doucement, on ne fait pas le fier. Hein? On n'est pas arrogant. Parce qu'on sait qu'on a frisé, comme on dit, la correctionnelle. Qu'on n'était pas loin de basculer du mauvais côté. Mais on a compris. Et on retient la leçon. Quelqu'un me disait, pour ne pas oublier, c'est ce que je fais, Bernard. Je prends mon mouchoir et je fais un... Avec les Kleenex, c'est difficile. Hein? Mais... je fais un nœud à mon mouchoir pour ne pas oublier. Chaque fois que je mets la main, je dis « Oh, attention, là tu as failli. Là tu t'es planté. Là tu n'as pas été droit. » Alors l'efficacité du sang de Christ agit. Et voilà que la joie le succède justement à la culpabilité, à l'angoisse. 1 Jean chapitre 1, verset 7, la deuxième partie. « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Psaume 51, verset 7. « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes transgressions, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Amen. L'avant-dernier poème, quatrième. Je fais plus vite. Hein. C'est l'angoisse et la peur due à l'épreuve. Ça vous tombe dessus, l'épreuve. Hein. Et là, on peut paniquer. Hein. On peut avoir peur. Les filles sont là. 1 Samuel 30, verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. David revient, il aperçoit Ziklag de loin. Oh, et il s'était réfugié là-bas. Et puis il voit qu'il y a la fumée qui monte, le feu, tout a brûlé. Ils arrivent, il n'y a plus personne. Femmes, enfants, bétail. Tout a été amené captif. Situation horrible. Croyez pas? La réalité, elle est là. Alors non seulement David, au même titre que les autres, il a tout perdu. Mais en plus, il entend la colère qui gronde, qui monte. Il est tenu responsable de la situation. Tous sont allés avec lui. Eh oui. Il est accusé, il est sur le point d'être lapidé. Et sa seule ressource a consisté à s'appuyer sur Dieu en se déchargeant sur lui de cette situation. 1 Samuel 30, verset 6. La deuxième partie. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Le Seigneur ne le jugera pas. Il s'est jugé lui-même. Vous voyez, quand nous avons fauté, quand également nous sommes dans une épreuve parce que nous l'avons cherché, parce qu'il l'avait cherché, bien sûr, hein, eh bien, le Seigneur saura nous montrer, lui, le chemin pour sortir de là. Il saura justement nous aider. Le remède se trouve dans la foi qui consiste ou qui triomphe, hein, qui nous amène à triompher de l'angoisse et de l'emprise de l'angoisse, parce qu'elle a une emprise sur nous. La foi, c'est quoi? C'est une attitude de ferme confiance. Amen. C'est ça. J'ai confiance en l'Éternel. Psaume 13, verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Paul, Silas, en prison, chantaient les louanges de Dieu. Ils savaient qu'ils étaient là parce que Dieu les avait envoyés. Dieu leur avait demandé d'aller là-bas, de parler en son nom. Et c'est la même chose. Ça peut étonner du monde, hein, quand un chrétien, dans l'épreuve, dans la difficulté qu'il rencontre, il a le sourire. Il dit, oh, je te bénis, Seigneur. Alléluia, je sais que tu as la réponse. Des fois, on tremble un peu intérieurement. Hein. On n'est pas fiers, mais on est là, on est bien. On dit, Seigneur, tu es là, tu es maître de tout. C'est toi qui conduis ma vie. Oh, je te fais confiance. Amen. Et puis les autres nous regardent, ils disent, mais attends, oh, je suis passé par là, moi. Je sais qu'on n'est pas fiers, on ne se réjouit pas. Mais lui, qu'est-ce qu'il a? Mais il a le Seigneur. Vous voulez qu'on vous reconnaisse? Vous voulez qu'on vous reconnaisse? Dans l'épreuve. Restez calme. Levez les yeux. Ne vous laissez pas obnubiler par la situation. Levez les yeux plus haut, la réponse, elle est là. Au-dessus. Faites confiance au Seigneur. Le dernier point. Putain, je fais court, hein. C'est l'angoisse et la peur due à la perspective de perdre quelque chose. On n'aime pas les pertes. Je ne sais pas vous, mais... Vous aimez les pertes, vous? Non. Et moi non plus. Alors, il y a un aveu, d'abord. Psaume 31, verset 5. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras. Éternel, Dieu de vérité. Verset 7. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. C'est quand même une attitude de confiance, vous ne croyez pas? L'ennemi est là! Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Je reviens à ce que je disais. Tu vois ma misère, tu sais mes angoisses, mon âme, mais tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. Voilà, j'appartiens au royaume de Dieu. J'appartiens au Seigneur. Je tiens sa main, il la tient ma main. Et si moi je n'ouvre pas ma main pour le lâcher, c'est lui qui va me sortir de là. C'est un Dieu miséricordieux. Alors il va me faire descendre une corde et va dans ma misère, hop, me faire sortir de là. Parce qu'il ne veut pas que je sois, que je capitule. Il ne veut pas que je sois dans la défaite. Il ne veut pas qu'il y ait de faillite chez moi. Au contraire, il va encore m'enrichir et me donner. Amen. Alors si David dit qu'il remet son esprit entre les mains de Dieu, d'abord déjà c'est pour être délivré de l'angoisse, se rassurer quelque part. Seigneur, tu es là. Comme je dis, des fois, on a un peu là, la voix tremblante, mais tu es là, Seigneur. Hein. Et puis également, pour être régénéré par le refus d'avoir livré quelque chose à Dieu. Oui, quelquefois, quand on ouvre la bouche, quand on s'exprime devant lui, eh bien, on dit, Seigneur, c'est vrai que ça, j'ai failli, je n'ai pas remis ça entre tes mains. Et voilà pourquoi aujourd'hui, j'en suis là. Parce que ce qui est soustrait au contrôle divin dans le domaine de la consécration, eh bien, justement, peut être à l'origine de certaines de nos peurs. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est pas mon fils, donne-moi une partie de ton cœur. Mais donne-moi ton cœur en entier. Amen. Vous saisissez? Tout ce que j'appartiens, tout ce qui m'appartient appartient au Seigneur. J'avais construit une maison, excusez-moi, je parlais de moi. Hein. J'avais construit une maison à Mazan, dans le quartier résidentiel. Elle faisait 550 mètres carrés au sol, 210 mètres carrés habitables, maison à demi-étage. Le pignon le plus haut, c'est 8 mètres 50. Je connais parce que c'est de mes mains. Hein. Voilà, j'ai mis ma sueur. Et puis, quand mes collègues savaient que j'allais partir dans le ministère, J'ai dit, moi, s'il faut la donner au comité missionnaire, s'il faut la donner pour Dieu, je la donne. Il me dit, mais t'es malade. T'es malade. T'as vu la maison que t'as fait? Oui. Mais elle appartient au Seigneur, elle ne m'appartient pas. Parce que j'appartiens au Seigneur. Tout ce qui m'appartient appartient au Seigneur. Vous voyez, de ce côté-là, j'étais complètement dégagé. C'est pas comme notre fils au début, hein, Jérôme. Hein. On construisait la maison et on lui disait qu'à maman le préparait. On disait, tu sais, un jour, on va partir servir Dieu. Il nous disait, ah ben alors la maison, on la démonte, on l'amène avec nous. C'est comme ça qu'il agissait. Et puis, on a vu la main de Dieu. C'est que quand ça a été le moment, qu'on lui a dit, Jérôme, ça y est, Seigneur nous donne le feu vert, on part. C'est quand qu'on va voir la nouvelle maison. Vous voyez, des fois. Mais Dieu nous prépare, hein, il sait. Et Dieu a préparé son cœur. Hein. Et puis on ne l'a pas amené, elle est restée là où elle était. Hein. On l'a visité il y a quelque temps. On l'a visité il y a quelque temps. Oui, je me dépêche. Allez. Alors, où en suis-je ? Alors, pour conclure, ben voilà, on y est. Pour conclure, je dirais que la peur a une dimension irrationnelle, incontrôlable. La foi, la prière, elle, demeure des moyens spirituels pour vaincre nos peurs, hein, nos situations qui surviennent sur nos vies comme ça, où on ne sait pas. Réfugie-toi dans le Seigneur. Fais-lui confiance. Voilà ce que David a appris par l'expérience. Et ce qu'il nous laisse en enseignement. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. L'Éternel est ma lumière, le psaume 27, verset 1er. Et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel, le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Car les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée, c'est fort une armée, hein, se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 56, verset 4. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Voyez, on y revient, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Et j'arrête là parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Alléluia. Amen, il a dit Emmanuel. Eh bien, on va fermer nos yeux, vous voulez bien? Merci pour ta parole, mon Seigneur. Merci pour l'exemple de David. Ces exemples d'hommes de Dieu, Seigneur, qui sont là pour nous montrer le chemin à suivre. C'est toi le chemin, la vérité et la vie. C'est de toi dont nous avons tous besoin. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous réfugier en toi. Nous voulons, Seigneur, tout simplement te regarder comme tout à nouveau. Peut-être nos situations sont là, certainement qu'elles sont là. Mais une chose est sûre, c'est que toi aussi tu es là. Et tu nous demandes de lever les yeux un peu plus haut. Ne pas nous laisser abattre, ne pas nous laisser dans l'inquiétude, dans l'angoisse, mais de vaincre, Seigneur, tout simplement en nous approchant de toi. Merci.